vous suit.
Voici les titres du journal.
Le Grand Conseil Valaisan a accepté ce matin un crédit d'engagement pour la première étape de la mesure prioritaire Chessel-Port-Valais de 3e correction du Rhône. On en parle dans un instant. Le canton de Vaud dévoile son plan d'action pour la formation professionnelle. Objectif avoué, promouvoir l'apprentissage auprès de tous les publics. Des efforts sont consentis, mais ils restent insuffisants. Il faut améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments vaudois. Et puis, en hockey sur glace, même boudé par les clubs professionnels, la National Cup reste attractive.
Et pour la météo, un temps bien ensoleillé nous attend pour cet après-midi, malgré des voiles nuageux d'altitude annonciateurs du retour des précipitations dans la nuit. Et demain jeudi, météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Justin Gray. Bonjour Justin.
Bonjour. 127 oui, aucune opposition et zéro abstention. Le Grand Conseil Valaisan a accepté sans coup férir ce matin un crédit d'engagement pour la première étape de la mesure prioritaire Chessel-Port-Valais de 3e correction du Rhône. Un crédit de 27 millions de francs, financé en partie par le canton de Vaud, Yves Terrani.
Oui, c'est juste. 37,5% pour Vaud, le solde à charge du Valais. Le député du centre, Florian Chapeau, s'est d'ailleurs interrogé sur l'iniquité de ce partage, étant entendu que le kilométrage est le même sur les deux rives du fleuve. La réponse est simple, la zone à fort potentiel de dommages en cas de crue du fleuve est plus importante côté Valaisan que Vaudois. Les travaux seront donc plus importants sur la rive gauche. J'ajoute que les dégâts potentiels maximaux dans ce secteur Valdo-Valaisan de quelques 1000 hectares sont estimés à 157 millions de francs en cas de crue centennale du Rhône. Maintenant, par Vaudoise, subvention de la Confédération et participation des communes concernées déduites, il restera 5,45 millions de francs sur les 27 à charge du Valais.
Et à quoi doivent servir les 27 millions de cette première phase, Yves ?
Eh bien, l'établissement du dossier de mise à l'enquête publique, aux achats à l'amiable de terrain, la réalisation anticipée de mesures d'accompagnement agricole ou encore aux travaux préliminaires sur le territoire des communes de Vouvry, Yvorne, Chessel, Port-Valais et Noville. J'ajoute que ce matin encore, et toujours à l'unanimité, le Parlement valaisan a accepté également deux autres crédits d'engagement pour des mesures prioritaires, Rhône 3 dans les secteurs Ride-Chamozan et Ride-Fuy.
L'occasion, Yves, pour certains députés, de redire tout le mal qu'ils pensent de ce projet de 3e correction du Rhône.
Oui, c'est le cas notamment de l'UDC Blaise Méli, qui voit des déficiences agricoles, énergétiques, financières et écologiques. J'ai de la peine à trouver des qualités à Rhône 3, a-t-il lancé, avant de se féliciter, à l'instar de représentants d'autres factions politiques, de la décision annoncée vendredi dernier par le Conseil d'État valaisan d'analyser d'ici l'été 2023 et suite à trois postulats urgents acceptés par le Parlement cantonal, la globalité de ce projet depuis son lancement il y a maintenant 22 ans. Pour une question de transparence, a précisé tout à l'heure le chef du département de la mobilité du territoire et de l'environnement, Franz Ruppen. Pour lui, pas question de chercher d'éventuelles erreurs du passé ni de freiner le projet, mais bien plutôt de trouver des meilleures solutions pour l'avenir afin d'aller de l'avant, quitte à repenser l'organisation interne de Rhône 3, a-t-il conclu.
Yves Terrani, merci. Précisons que ce matin encore, le Grand Conseil valaisan a aussi dit oui à l'entrée en matière concernant l'octroi d'un crédit supplémentaire au service de la mobilité pour la couverture des déficits supplémentaires liés à la pandémie. La discussion de détail de cet objet aura lieu vendredi. Des amendements ont été déposés.
Seul un jeune sur cinq dans le canton de Vaud choisit directement la voie professionnelle à la sortie de l'école obligatoire.
Face à ce constat, le département de la formation et de l'enseignement professionnel veut inverser la tendance. À l'occasion de l'édition 2022 du Salon des métiers, le canton de Vaud a présenté son nouveau plan d'action pour redonner sa juste place au choix de l'apprentissage. Reste à savoir si la formation professionnelle a aujourd'hui mauvaise réputation. Le conseiller d'État, Frédéric Borloo.
Ils n'ont pas mauvaise réputation en tant que telle, mais c'est un peu le deuxième choix. Voilà ce que j'ai dit ce matin. Le constat qu'on fait, c'est un peu, si tu n'arrives pas à aller ailleurs, bah, ma foi, tu feras un apprentissage. Or, nous, précisément, on pense que la sortie de la voie obligatoire, il y a deux choix à faire. C'est soit la formation professionnelle, soit la formation académique. Et puis que les deux offrent finalement un avenir en termes de formation, d'opportunités, qui sont tous les deux très impressionnants et importants dans le canton de Vaud.
Le canton de Vaud se fixe trois axes de travail, à savoir mieux informer tous les publics, favoriser les transitions directes vers le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation professionnelle et développer des formations vers les métiers qui répondent aux défis contemporains. Pas question, toutefois, de laisser la formation académique sur le bas-côté. On retrouve Frédéric Borloo.
Aujourd'hui, le constat qu'on fait avec le gymnase, c'est que le gymnase vaudois va bien. Le gymnase fonctionne bien, il y a plein de jeunes qui ont envie d'y aller. Par contre, on voit qu'on a des problèmes vis-à-vis de certains employeurs aussi, je le cache pas, qui sont aussi institutionnels, hein, pas seulement des entreprises et des artisans, mais des institutionnels qui n'engagent pas d'apprentis à 15 ans ou 16 ans. Alors on propose d'étudier, de mettre en place des formations différentes, un encadrement un peu plus fort. Et puis parallèlement à ça, eh bien, je dirais que il faut donner le goût, il faut donner l'envie, donc plus d'informations dans la période, disons, obligatoire, précisément pour titiller l'intérêt des jeunes.
Un sujet réalisé par Julie Gay. Les archives des registres de paroisses et d'état civil du canton de Vaud sont accessibles en ligne. Conformément au cadre légal fédéral, ces documents sont publics. La population peut désormais accéder en toute liberté à plusieurs millions d'actes de naissance, mariages et décès, dont certains remontent au XVIe siècle.
Mention peut mieux faire pour le bilan carbone du parc de logements vaudois.
C'est ce qui ressort d'une étude dévoilée hier par la Banque cantonale vaudoise en collaboration avec le centre de recherche CREM de Martigny. On en parle avec vous, Thierry Nicolet.
De nombreux efforts sont consentis pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments vaudois, mais ils restent insuffisants. Les émissions de CO2 des bâtiments s'élèvent à près d'1,4 million de tonnes chaque année, soit 1,7 tonnes par habitant.
Que signifient ces chiffres ?
Ils se situent dans la moyenne nationale, ils sont même en dessous des estimations faites précédemment par le centre de recherche du CREM. Mais tout n'est pas rose, de nombreux efforts sont tout de même à faire. Vincent Moreau, responsable recherche au CREM.
Aujourd'hui, le constat qu'on fait avec le gymnase, c'est que le gymnase vaudois va bien. Le gymnase fonctionne bien, il y a plein de jeunes qui ont envie d'y aller. Aujourd'hui, le constat qu'on fait avec le gymnase, c'est que le gymnase vaudois va bien. Le gymnase fonctionne bien.
On a déjà entendu Frédéric Borloo. Voilà, c'était pas le bon son. On va essayer de retrouver le bon. C'est Monsieur Moreau.
C'est Monsieur Moreau, Vincent Moreau.
C'est parti.
Si on regarde en termes de consommation d'énergie, ça reste plus élevé que ce qu'on peut retrouver dans les nouvelles normes de construction. Les 1,38 million de tonnes de CO2 pour l'ensemble du parc résidentiel, ça correspond quand même à près de un peu plus même qu'une tonne 1,7 d'émissions de CO2 par habitant et par an, juste pour le logement, ce qui est déjà au-dessus des objectifs à atteindre pour 2050, dans une perspective de d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris, par exemple. Donc là aussi, il y a un effort à faire. On n'a pas juste besoin de se loger, on a aussi besoin de se nourrir, de se déplacer, etc.
Le canton fait tout de même office de bon élève, proportionnellement à sa population. De nombreuses disparités sont toutefois relevées entre les communes. Les raisons avec Vincent Moreau.
Tout à fait. Et ça, en partie parce que la moyenne d'âge des bâtiments se retrouve élevée dans toutes les communes. Il y a quelques exceptions, évidemment, dont les communes qui se sont développées plus récemment, depuis l'an 2000, où on observe une sorte de plateau dans la demande énergétique des bâtiments. Pour vous donner un exemple, la ville de Nyon a un parc immobilier qui est relativement récent, et donc une demande énergétique qui est moins élevée qu'ailleurs. Tout ça dépend effectivement des efforts qui ont été consentis jusqu'à maintenant pour la rénovation des bâtiments. On prend généralement en compte comme âge des bâtiments la dernière grosse rénovation ou rénovation lourde qui, la plupart du temps, implique aussi des rénovations énergétiques.
Mais Thierry, il faudra toutefois faire mieux pour augmenter l'efficacité énergétique du parc immobilier vaudois.
Idéalement, il faudrait arriver à fixer les émissions annuelles de CO2 par habitant à une seule tonne, contre les 1,7 actuels, afin d'atteindre les objectifs 2050 des accords de Paris. Pour ceci, il sera notamment nécessaire de quadrupler d'ici à la date butoir le taux de rénovation énergétique des bâtiments, qui s'élève actuellement à 1% par an. Nécessaire selon Olivier Ouzilou, fondateur de Signataire, agence spécialisée dans le contrôle énergétique.
En tout cas, pour atteindre les objectifs 2030 et 2050 de décarbonation du parc immobilier, il faut augmenter ce taux de rénovation. Aujourd'hui, il faut 100 ans, donc 1% par année pour rénover le parc immobilier. Dans tous les plans climat, plans directeurs de l'énergie, etc., on veut passer à 2,5% d'ici 2030, à 4% d'ici 2050. Donc ça veut dire rénover, aller plus vite, mieux, pour consommer moins et atteindre ses objectifs. Donc cet objectif ambitieux de taux de rénovation, c'est la condition nécessaire pour atteindre ces objectifs 2030-2050.
Il n'empêche que réaliser ces objectifs s'annonce compliqué, Thierry.
C'est en tout cas l'avis d'Olivier Ouzilou. Il pointe notamment un problème d'effectifs et de matériel pour mener ce changement à bien.
pour faire vite et faire mieux, il va falloir avoir des ressources humaines et matérielles pour pouvoir réaliser ces travaux. Et donc là, on a un vrai déficit et un vrai challenge pour les jeunes en termes de formation, au niveau des CFC, de ces métiers, de la transition du bâtiment. Donc le message, c'est vraiment, mettez-vous dans ces nouveaux métiers, soyez ferblantier couvreur, le photovoltaïque, des isoleurs, etc. Il y a vraiment une richesse de métiers pour justement créer des PME, PMI dans ce sujet. Puis là, on a un vrai déficit de ressources humaines. Et puis deuxièmement, évidemment, c'est les matériaux, c'est le photovoltaïque, c'est les pompes à chaleur, etc. Où là, il va falloir aussi qu'on ait à disposition ces matériaux pour rénover, notamment le bois, l'acier. Donc il va falloir que structurellement, la société s'organise autour de cette transition.
Olivier Ouzilou d'ajouter encore que la transition énergétique n'est plus une solution, mais une priorité. Priorité qui passera donc par un important travail dans la rénovation énergétique du parc immobilier vaudois et suisse. Notons enfin que les données de cette étude seront publiées à la fin du mois dans le dossier de la prochaine édition de BCV Immobilier.
Merci beaucoup Thierry Nicolet. On les disait ennemis, les deux fêtières des assureurs maladie de Suisse, Santé Suisse et Cura Futura, s'unissent dans une association commune avec les médecins de la FMH et les hôpitaux. Cette organisation, présidée par le conseiller d'État bernois Pierre-Alain Schneig, doit faire aboutir en 2023 le forfait ambulatoire et le nouveau tarif des prestations des médecins, le TARDOC. C'est un pas important vers une réforme de la tarification des soins. L'information a été donnée ce matin à Berne par Cura Futura et qui mène par ailleurs une croisade contre les prix des médicaments qui coûtent très cher et surtout ceux du modèle du prix confidentiel. Les explications de son porte-parole Adrian Kay.
On a analysé les 20 médicaments qui coûtent le plus cher à l'assurance de base. Et on arrive à un résultat quand même assez frappant, c'est que seuls 20 médicaments sur les 3000 qui sont remboursés sont responsables d'un cinquième des coûts. Ces 20 médicaments sur les 12 derniers mois, donc sur un an, ont engendré 1,7 milliard de francs de dépenses. Ce qu'on a remarqué aussi en faisant cette analyse, c'est que sur ces 20 médicaments, vous en avez 7 qui ont des modèles de prix confidentiels. Il y a une grande intransparence dans ce domaine qui pousse les coûts vers le haut. On s'inquiète de voir qu'il y a des velléités d'étendre encore davantage ces modèles de prix confidentiels. On propose une solution, c'est le modèle de l'impact budgétaire. Et l'idée est simple, dès qu'un médicament dépasse 20 millions de francs de chiffre d'affaires par année, on a des baisses automatiques de prix. On a calculé le potentiel d'économie avec ce modèle. Si on l'avait appliqué aux médicaments qui coûtent le plus à l'assurance de base, on aurait pu économiser depuis 2014 plus de 170 millions de francs.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Charles Caudrelier est le vainqueur de la 12e édition de la Route du Rhum. Le Français a franchi la ligne d'arrivée tôt ce matin à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Pour traverser l'océan Atlantique depuis Saint-Malo, le navigateur tricolore a eu besoin de 6 jours, 19h et 47 minutes. Il s'agit d'un nouveau record, un record qui était attendu en raison de la participation des maxi-trimarans de 32 mètres conçus pour voler au-dessus de l'eau.
En hockey sur glace, la National Cup continue sa route sans club professionnel.
Depuis deux saisons, les deux premières divisions ne prennent plus part à la Coupe de Suisse. Seules les équipes de My Hockey League et des échelons inférieurs y participent. Malgré ce retrait, la compétition ne s'est pas arrêtée pour autant, en faisant désormais la part belle aux équipes amateurs. Et la magie de la Coupe est toujours au rendez-vous, si bien que dès l'année prochaine, les clubs de Swiss League se mêleront à nouveau à la fête. Après cette annonce, l'espoir d'y revoir des écuries de National League est grand pour Marc-Anthony Anne, président de la Régio Ligue de hockey.
En tout cas, ce serait mon souhait. Je suis peut-être un côté utopique, un peu rêveur parfois dans la vie. Je crois que le hockey professionnel doit aussi un petit peu voir ce qui se passe plus bas. Et comme ils ont la lumière souvent des médias, il serait peut-être juste aussi de redonner quelque chose au sport amateur en y participant à nouveau. Parce que quand on voit leur calendrier de Champions League et l'intérêt de la Champions League, qu'est-ce qui est plus important à un moment donné? Est-ce que c'est de continuer à faire vivre le hockey amateur de notre pays ou bien est-ce que c'est de faire des matchs de Champions League auxquels il y a moins de monde que dans un championnat? C'est une question que je pose, elle est un petit peu provocatrice par rapport à ça. Mais l'appel, il est lancé depuis longtemps et j'ai toujours tendu la main à ces clubs, à eux de savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de donner pour le futur du hockey suisse.
Marc-Anthony Anner répondait à Julien Traxel. Les quarts de finale de cette National Cup se disputent ce soir. Duel de My Hockey League pour le HCV Martigny qui accueille le SC Lys à la patinoire d'Octodure dès 20h.
L'actu en continu, radiochablais.ca.